sous tes doigts. Mon sort sur cicatrice à toi. La nuit s'éveille, jour entre les bras. C'est la formule magique de l'amour magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. T'es les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. Du miel, du sel en bombe, le feu qui brûle en moi. Mon cœur.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Et nos vraies voix de ce soir qui sont avec vous autour de cette table, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un Inclassable publié à la Nouvelle Librairie, Olivier Dartigol, chroniqueur politique, et Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Allez, c'est parti pour le coup de gueule de Frédéric Brindel.
Oui, vous êtes détendu, heureux, bientôt reposé, les ponts de mai offrent une fenêtre ouverte sur les plaisirs simples de la communion avec la nature. Direction la campagne, la mer, la montagne, vous croiserez peut-être un touffu petit écureuil, une virevoltante mouette, un très doux mouton et des vampires avides de fric méprisant votre quotidien, les sociétés d'autoroute et leurs complices pompistes. Nous sommes le 8 mai, le prix du litre d'essence dépasse le plafond. Font des 2 euros. Les stations-service campant sur les autoroutes se font du bien sur le dos des usagers. Plus 15 centimes d'euros par rapport au réseau national et départemental. Après avoir fait la queue à la pompe, vous pourrez déguster un poulet frite à 30 euros. Vous aurez collectionné les passages au péage, quelquefois pour 15 kilomètres parcourus. Autant de coups de carte bancaire sans contact, autant de ralentissements pour cause d'embouteillage à la caisse, comme pour bien nous convaincre que ça valait le coup de payer plus cher pour aller plus vite. Finalement, c'est mieux de travailler en ce jour du 8 mai, n'est-ce pas, les vraies voix ?
Philippe Bilger.
Oui, votre coup de gueule est très pertinent, même si ça fait un certain temps que je n'ai plus pris l'autoroute. Mais je crois qu'en effet, il profite, il m'attraque. C'est bien assez sûr. Scandaleux.
Cela avait été un véritable scandale d'État, la manière dont notre réseau autoroutier avait été privatisé et les concessions pour les sociétés privées. Il faudra donc renégocier tout ça dans un rapport, en essayant de faire avancer positivement le rapport de force pour l'État. C'est pas gagné. Mais sur ce que vous dites sur les pompes à fric, concernant le fait que vous mettiez le premier pneu sur une autoroute avec tout ce qui suit derrière et vous en avez fait le récit, est une réalité. Et pour des familles qui, pour qui parfois partir en vacances c'est un véritable effort budgétaire, si elles se prennent bien évidemment des coups de bambou derrière la tête comme ça dès les premiers kilomètres, c'est très très dur.
Oui, bien sûr. Madi Saïdi.
Oui, c'est tout à fait scandaleux parce que d'abord les Français, on connaît les problèmes de pouvoir d'achat qu'ont les Français. Et c'est d'autant plus scandaleux que je trouve qu'on profite de ces moments où parfois les familles font des efforts pour partir et on leur coupe la tête. Et ça, c'est tout simplement inadmissible.
Et en plus, Judith, j'étais un petit peu tenue par le temps.
Ouais.
Du coup, là, on en a un petit peu, juste. Mais j'aurais pu ajouter, si une fois qu'on est sorti de l'autoroute, on veut garer sa voiture, on paye très cher dans le fameux parking du même
Concession.
Qui nous a fait payer l'autoroute.
Et moi, je peux dire un truc. truc aussi sur le prix du stationnement en général, et oui. D'ailleurs pour les scooters, parce que alors je peux parler
ah oui,
de mon
vous
cas
êtes en scooter,
très
oui.
personnel. Ah oui. Je suis parisienne, je garde donc mon scooter à côté de chez moi, et je pense que avant que je prenne mon pass et que donc je paye assez cher à chaque fois que je me gare, j'ai dû prendre à peu près une quinzaine d'amendes oui. en 10 jours. Donc j'avais quand même une période. Pardon.
C'est pour ça que vous n'avez voilà. pas pu nous inviter voilà. à manger.
Il y avait quelqu'un qui venait, qui avait repéré mon scooter, et donc vraiment j'ai dû prendre une quinzaine d'amendes. Donc je trouve ça incroyable en
c'est
fait.
Ils sont très organisés. Ah, voilà. Absolument, ils sont organisés.
C'est du racket, hein, Mathieu.
Absolument.
Ouais. Bon. Philippe Bilger, vous avez envie de réagir sur le prix du stationnement?
Non, mais je compatis pour le racket, si j'ose dire.
Ok. Oui. Bon, allez, on va passer quand même peut-être à vous avez la parole avec Félix Mathieu, n'est-ce pas?
Avec la flamme olympique qui débarque à Marseille. Ah. 150 000 personnes environ dans la cité phocéenne pour assister à ce moment d'histoire. Hein. Le Bel Aim est arrivé au milieu d'une parade nautique grandiose et la flamme va débarquer sur le sol français dans la soirée, toujours en grande pompe, évidemment. Alors, pour en parler, nous sommes censés être en ligne avec Mathieu, le responsable de la brasserie OM Café. Sur le Vieux-Port. Alors,
mais Mathieu n'est pas joignable.
On a un petit problème. On devrait l'avoir dans l'oreille d'ici quelques instants.
On va faire un petit tour avec les vraies voix, quand même.
Voilà. Bon, hein? En tout cas, la flamme va bientôt débarquer. Il se passe beaucoup de choses, décidément, à Marseille ouais. en ce moment.
Parce on a même vu, d'ailleurs, qu'il y avait des manifestations. Hein. Il y a plus d'une centaine oui. de personnes qui sont en train de manifester contre les Jeux Olympiques.
Ah bon?
Ce qui nous fait, en plus, rebondir sur notre question de tout à l'heure. Hein. Cette idée de fierté nationale. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui soient mécontents, selon vous, Philippe?
Mais je pense que beaucoup de gens sont mécontents aujourd'hui, mais lorsque ça commencera, je pense qu'ils seront heureux d'avoir les Jeux Olympiques et fiers. D'ailleurs, comment, d'une certaine manière, ne pas être... Je vais le garder pour tout
oui,
à l'heure.
Oui, c'est ça, ne dévoilez pas, mais peut-être, effectivement, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Judith Belair, alors il y a les premières photos, premières images, d'ailleurs, de manifestants anti-flammes à Marseille, et bizarrement, il y a plein de drapeaux palestiniens. Alors, c'est pareil, j'ai pas compris au niveau de ces manifestations.
Les gens mélangent tout de nos jours.
Voilà, mais en tout cas, bon, il y a les premières infos voilà, qui arrivent.
On a retrouvé Mathieu.
Ou quelqu'un qui a côté de Mathieu à l'OM Café, en tout cas. Bonjour.
Bonjour.
C'est Sarah, je suis la patronne de l'OM Café.
Bonjour. Ah,
c'est encore mieux. C'est encore mieux.
À qui ai-je l'honneur, la patronne?
Par contre, il va falloir m'expliquer où vous avez vu, parce que moi je suis en direct de la flamme qui va arriver dans pas longtemps.
Ouais.
Je suis là bien placée. Il va falloir où vous avez vu qu'il y avait une manifestation anti-flamme.
Alors, nous avons vu cela en commentaire.
Et en quelle année il y avait une manifestation de palestiniens?
Alors, je vous réponds tout de suite.
On va tout vous dire.
Sarah, je vous réponds.
Il n'y a absolument rien de ce que vous dites.
D'accord, on vous entend. Nous, on a des auditeurs qui commentent et il y en a un qui a commenté avec une vidéo en direct de Marseille où il filme les manifestants qui sont en train d'arriver. Alors, peut-être qu'ils ont été empêchés d'arriver par les forces de l'ordre.
Et si je peux me permettre, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez manifestation Marseille contre la flamme, et vous allez voir tout de suite sur les sites bien connus, notamment de nos confrères BFM et plein d'autres. Voilà.
Bon, en tout cas, sur le Vieux-Port, c'est plutôt l'ambiance festive sur le Vieux-Port, c'est ça que vous voulez dire ?
Il prend tout le Vieux-Port, et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, tout le monde fait la fête. Ah. Je n'ai pas une manifestation. Et je n'ai pas un drapeau devant moi.
Eh ben tant mieux.
Ça, c'est sur le Vieux-Port, c'est génial. Donc, c'est le plus important.
Mais c'est normal.
Allez, bonne ambiance, bon enfant, quoi.
Non, pas du tout. Ça s'appelle Sud Radio, il me semble.
Eh,
ma chère Sarah.
Parce que vous m'avez énervé.
D'accord.
On vous embrasse.
Et allez l'OM, super.
Et juste,
ça s'appelle Sud Radio, effectivement. Effectivement, en s'appelant Sud Radio, il y a toutes les chances qu'on ne soit pas du Sud. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave.
Donc voilà. C'est très bien.
C'est très bien. C'est génial en tout cas, c'est super.
Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'ambiance à Marseille en tout cas, Félix Mathieu. Hein. Allez, vous restez avec nous.
Surtout que demain soir, en plus, il y a le match de l'OM quand même pour savoir s'il se qualifie la finale de Ligue Europa.
Match retour à Bergame.
Entre l'arrivée de la flamme ce soir et le match demain, il y a pas mal de choses.
Et puis votre point de vue qui a fait l'émoi à Marseille, tout le monde l'a entendu.
Oh bah c'est vous qui avez agacé la dame.
C'est de ma faute, c'est moi. Allez, 0826 300 300, si vous voulez réagir, vous restez avec nous, vous nous appelez aussi évidemment, vous votez sur notre compte Twitter. On va revenir dans un instant avec les vraies voix, nos vraies voix du jour, pour le tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite.
Sud Radio Agen
102.3
Sud Radio.
presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace à la place du cœur. Même si je m'en rien sentir, inconscient minéral, plus le moindre désir, plus de peur ni de mal. Oh, et même si je m'améliore.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est tout de suite.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine.
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Mais vous, vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
C'est Philippe Bilger qui commence. Jean-Louis Thériault, la direction de Sciences Po s'est couchée. C'est le député LR qui veut suspendre les subventions publiques de grandes écoles en cas, entre autres, d'apologie du terrorisme par les étudiants qui vous inspirent.
Ce qui m'intéresse dans le point de vue de Jean-Louis Thériault, député en effet républicain et l'un des plus intelligents, voire le plus intelligent du lot, c'est que il propose d'arrêter les subventions publiques pour les établissements d'enseignement supérieur lorsque les gens qui auront commis ces apologies, ces propos antisémites ou même la volonté d'éradiquer un peuple n'auront pas été sanctionnés. Quand ils seront sanctionnés, eh bien, on pourra redonner des subventions publiques.
Et il faut préciser, sanctionner par l'école, hein, quand même, que les gens comprennent.
Ouais, ouais. Et si ça n'est pas fait, eh bien, on les supprime. Je trouve que ça n'est pas complètement absurde. Ça montre que peut-être il faudrait les mettre, ces enseignants, en face de leurs responsabilités.
Olivier D'Artigal.
Je suis, bien évidemment, cher Philippe, favorable au fait que les étudiants ayant eu des propos antisémites soient sanctionnés et que la mesure soit rapide et forte. Mais la proposition qui est faite, au final, serait une sanction de l'ensemble des étudiants de Sciences Po. Or, on ne cesse de le dire sur les plateaux, il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre quelques individus et l'ensemble des étudiants de l'école de sciences politiques, qui seraient donc injustement sanctionnés par cette décision de couper les financements. Donc je ne sais pas si l'intention est bonne, mais je ne sais pas si sa traduction est très juste.
Une épée de Damoclès sur la direction.
Mahdi Saïdi.
Et de toute manière, ces étudiants sont déjà sanctionnés. Ceux qui veulent aller en cours sont sanctionnés par l'œuvre d'une minorité qui malheureusement les empêche d'aller en cours. Et je trouve cette idée intéressante dans le sens où souvent, je trouve que les établissements manquent de courage. Et là, ils se retrouvent face à leurs responsabilités. Et après, c'est un choix. Ils sont obligés, quelque part, on leur tord le cou. Ça peut être très utile.
Il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'a fait la direction de Sciences Po, par exemple, contre les étudiants qui ont bloqué l'université, l'école en question.
Judith, j'ai cru très objectivement, ouais. Qu'à l'époque, Jean Baffert avait signalé que les sanctions étaient suspendues, mais qu'il y aurait uniquement dans le cas de propos antisémites des sanctions qui seraient prises. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui.
Oui, hein. C'est l'annonce faite par la direction de Sciences Po, qui a donc rappelé la ministre de l'enseignement supérieur que les étudiants pour lesquels des poursuites avaient été engagées sur des propos antisémites, que bien évidemment, les instructions sont en cours. À suivre.
À suivre, tout à fait. Allez,
alors,
on passe
le tour de table d'Olivier.
Oui, voilà, on passe à votre tour de table, Olivier.
Je réfléchissais.
Attendez, je vous lance, quand même.
Et c'est un beau lancement. Et c'est un beau lancement qu'a prévu Judith.
Pour des têtes de liste aux élections européennes, la campagne n'est pas un long fleuve tranquille, car ils n'ont pas le pouvoir de décider, d'arbitrer et d'assumer véritablement un leadership.
Vous voyez, ça valait. Vous avez c'était bien.
Trouvé, oui, c'est très bien c'est trouvé, ça, c'est très bien écrit. Je réfléchissais à cette situation. Pour Valérie Hayer, qui se retrouve tête de liste, qui n'était pas le premier choix de la Macronie pour diriger cette liste, des personnalités très capées, à commencer par Bruno Le Maire, mais j'ai aussi souvenir d'autres noms, ont refusé parce que le challenge était risqué, et qui aujourd'hui, très confortablement, ne cesse, journée après une journée, de commenter les performances ou contre-performances de Valérie Hayer, en disant « oui, c'est pas mal, mais peut mieux faire ». Je trouve que ce comportement-là manque d'élégance. Elle n'a pas pu choisir, alors que quand vous êtes tête de liste, vous devriez avoir des prérogatives et quelques pouvoirs, elle n'a pas pu choisir, elle n'a pas pu peser sur la composition de la liste Renaissance. Les arbitrages politiques ont été rendus au plus haut niveau de l'État. D'après ce qui peut se dire, s'écrire, certaines décisions posent problème. Concernant Marion Maréchal. Marion Maréchal conduit cette liste, mais avec donc sur cette liste de reconquête en numéro 3, Sarah Knafo, qui a fait une arrivée tonitruante dans le paysage médiatique, tout en assumant dans les colonnes du JDD ce dimanche une différence de ligne politique avec Marion Maréchal. Je ne rentre pas dans les détails, mais il s'agit de savoir si on s'adresse prioritairement, si on va chercher prioritairement des électeurs du côté de RN ou du côté de LR pour faire à grand trait. Mmh. Donc, elle se retrouve dans une situation difficile. J'en termine par François-Xavier Bellamy, qui a eu une actualité de campagne positive avec son arrivée rue Saint-Guillaume, mais qui lui aussi n'a pas pu rendre les arbitrages concernant la la composition de sa liste, et à en croire un entrefilé dans Le Canard Enchaîné, il dit, quand il a vu la liste, ça va être difficile de mener campagne, je ne vais pas être très fortement soutenu. Donc c'était pour évoquer cette réalité politique qui fait que je préférerais véritablement qu'on donne la main à une personnalité connue ou moins connue pour diriger une liste, qu'on puisse lui laisser un peu plus d'espace d'initiative.
Ça fait un peu comme 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Vous savez, Coluche, il va voir César, il dit on se bat, puis il se retourne, il n'y a plus personne derrière lui.
Alors justement, à ce sujet du positionnement de Valérie Hayer, on se souvient aussi de la proposition de notre Premier ministre de rencontrer à sa place Jordan Bardella lors d'un débat. C'est-à-dire qu'on on pourrait presque se demander si ce n'est pas un peu phallocrate tout ça, Madi Saïdi.
Oui, absolument. Et puis je trouve que malheureusement, la politique a beaucoup changé. Alors là, l'autre consolation, c'est que c'est pareil chez tout le monde. Mais en réalité, c'est très gênant. C'est qu'effectivement, ils sont tête de liste, ils sont censés porter une tête de liste. Et encore, je vous parle pas des LFI, qui la tête de liste a disparu au profit de la 7e.
La 7e, oui.
Voilà. Et c'est terrible parce qu'ils ne peuvent pas faire campagne. Ils n'ont pas choisi leurs équipes. C'est scandaleux. D'ailleurs, pourquoi ce serait Attal qui irait affronter, Bardella alors qu'il est quand même Premier ministre? Il court pas tout à fait dans la même cour. Et quelque part, c'est dire à Valérie Hayer, pousse-toi que je m'y mette parce que toi, en fait, t'es pas capable d'aller débattre avec Bardella. Et ça, c'est quand même terrible.
Elle l'a fait.
Oui.
Elle l'a fait.
Alors, il y a eu ce premier débat. Il y a eu ce premier débat où d'ailleurs, les gens ont reconnu un certain talent de débatteur pour quelqu'un qui en était à son premier débat.
Un talent de débatteur
pour une débatteuse, oui.
D'accord.
Moi, en dehors des difficultés qu'évoquait Olivier, il y a le problème, évidemment, des espaces politiques. Hein. Pour Bellamy, c'est très clair, même pour le macronisme. Pour reprendre votre expression, c'est tout sauf un long chemin tranquille. Hein.
Oui.
Et même pas glorieux. Ouais. Hein.
Et donc, pour Reconquête, alors vous êtes intéressé à Reconquête, c'est quand même bien, Olivier d'Artigol. Je pensais pas que vous alliez. Non, vous ne dépendez pas.
Je suis un observateur politique, donc je m'intéresse à l'ensemble du prisme politique.
Et ça, je trouve ça magnifique chez vous. Vraiment, moi, j'ai été impressionné par.
Par l'ouverture d'intellectuel.
J'ai une passion de la politique.
Madi Saïdi, vous allez nous annoncer rapidement de quoi vous allez parler dans un instant.
Parler du Parti communiste, ce serait peut-être un peu.
Pardon, Philippe Bilger. Messieurs, on laisse parler Madi Saïdi, s'il vous plaît. Allez-y, Madi.
Alors, une fois n'est pas coutume, alors aujourd'hui, ça sera un coup de cœur, pas un coup de gueule. Et mon coup de cœur, c'est les cérémonies de commémoration que j'aime beaucoup.
Eh bien.
Que j'aime beaucoup, que je trouve très utile, d'abord parce que c'est un moment.
Vous allez nous expliquer tout ça juste.
D'accord.
Dans un instant.
Ouais, entendu. Hein, vous alliez dégainer.
C'était un petit teasing. Et puis n'oubliez pas notre coup de projecteur à 18h40. Bien, hein. La flamme olympique est accueillie dans la rade de Marseille aujourd'hui après un périple de 11 jours en Grèce. Selon nos confrères du Figaro, le centre de renseignement olympique basé au ministère de l'Intérieur envisage 72 scénarios susceptibles de mettre en danger le parcours.
Vous allez tout la faire, hein. Ouais, allez-y.
Voilà.
Ouais.
Donc on vous pose la question sur X.
Ouais.
Allez-y, posez la question.
Qu'est-ce qu'on pose comme question? Eh bien, le relais de la flamme. La France organise les JO de 2024. Est-ce une fierté pour vous? Dites-nous ce que vous en pensez. On n'a pas encore le pourcentage, on va regarder.
On va regarder.
Mais
après,
j'ai l'impression que je vais être un peu déçu, non?
Peut-être.
Parce que moi, je suis fier.
Fier.
À tout de suite.
Sud Radio Marseille, 95.1 et en DAB+.
Sud Radio.
Venait du Connecticut, on peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner à coups des pommes motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse en arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse en arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a
alias mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Il danse. Elle danse. Qui danse. Qui danse. Il danse, quelle que soit la tendance. Pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Il danse pour leur indépendance, qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance, la danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Radio 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
La suite du tour de table de l'actu des vrais voix, arrêtez de me faire rire, Frédéric Brindel, on n'arrive pas à se concentrer dans ce studio, c'est une catastrophe. Allez, Maddy Saïdi, vous alliez nous parler de quelque chose de positif, hein, parce que vous aimez justement le rôle mémoriel et très important des commémorations, parce que c'est de la communion nationale.
Absolument, hein, parce que c'est de la communion nationale. Moi j'aime beaucoup ces rencontres où on se retrouve tous ensemble et qu'on se rappelle ce qu'on a en commun. Et tout particulièrement, aujourd'hui, j'ai participé à une commémoration qui était donc organisée par une association sénégalaise qui s'appelle l'association Serigne Fall Oufal, qui s'efforce chaque année de rendre hommage aux soldats sénégalais qui avaient été envoyés par Serigne Fall Oufal en France pour venir justement aider la France.
Et donc, on les appelait pas les spahis? Non, ou les non, c'est pas ça. C'est est-ce qu'il y avait un terme comme ça qu'on nous avait appris au service militaire où justement on rendait hommage.
Il y a certainement un terme particulier. Et donc j'étais ravie de participer à cette cérémonie parce qu'elle nous rappelle ce qu'on a en commun, la France et le Sénégal. Et je trouve cette association hyper courageuse. Tous les ans, elle fait une déambulation dans le 17e. Elle va jusqu'à la place de l'Étoile. Elle dépose une gerbe. Et c'est hyper important, je trouve, aussi bien pour nous Français que pour les Sénégalais, de se rappeler que des Sénégalais étaient venus aux côtés de la France pour se battre et sont tombés pour la France.
Les fameux tirailleurs.
Des fameux tirailleurs.
Ouais, ouais.
Le devoir de mémoire est important.
Absolument,
dans tous les cas.
Et surtout dans des événements autour desquels il y a, à part quelques délirants, un consensus absolu.
Absolument.
Ça n'est pas le choix d'événements qui peuvent être discutés, comme on le disait ce matin, la frénésie mémorielle du président, parfois. Là, c'est quelque chose de fondamental autour duquel l'unité du pays peut se faire, se maintenir ou se reconstituer, malheureusement.
Absolument.
Il y a raison sur une dimension très importante, c'est la somme d'initiatives autour de ces cérémonies, en l'occurrence celle du 8 mai, venant d'associations, de l'éducation populaire, de l'éducation nationale, de comités de quartier, qui travaillent à prendre leur part dans l'hommage qui est rendu autour des monuments aux morts. Et moi, je suis toujours très, très attentif à suivre dans l'actualité que je peux voir localement, à Pau et ailleurs, de suivre année après année ce qui est fait. Et c'est souvent remarquable, et on en parle peu au final.
Finalement, sans cette histoire, ce que vous voulez nous dire aussi, sans cette histoire qu'on remémore ensemble, finalement, on a du mal à s'ancrer dans notre présent aussi, Maddy Saïdi. C'est ça qui est important.
On a du mal à s'ancrer dans notre présent. Je pense que d'ailleurs, pour s'ancrer dans notre présent, il faut être en accord avec notre passé, et ce passé-là, il nous appartient. Et ce qui m'a touché davantage, c'est qu'aujourd'hui, on avait dans cette cérémonie le maire de Tiaroy. Tiaroy, c'est quand même un drame, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a eu quand même ce Tiaroy 44, où ces tirailleurs qui s'étaient battus pour la France ont réclamé leur pension et finalement ils ont tous été tués. Mmh. Et donc ce maire de cette ville populaire du Sénégal a fait le déplacement pour commémorer ici en France avec les Français
pour souligner le lien malgré tout quoi.
Absolument, il y a un lien malgré tout. Ouais.
Et je voulais juste apporter une précision parce que j'ai posé une question sans avoir la réponse. Donc les Spahis sont des unités de cavalerie française de l'armée d'Afrique et ayant existé entre 1834 et 1964. Donc
les tirailleurs, c'est ça que vous dites. Hein.
Mais ça fait partie aussi, moi ayant fait l'armée, je suis pas si jeune que ça. Eh bien, on nous a appris aussi à nous souvenir de tout ça. Un mot peut-être. Non, est-ce qu'on a le temps, Julie?
Je voulais juste dire que tout ça pour dire que moi je voulais saluer aussi l'action des associations, notamment cette association Serigne Falloufal, et je pense que le gouvernement sénégalais gagnerait à se rapprocher de ces associations pour faire des commémorations communes.
Ouais. Vous avez vu ce matin les commémorations, alors vous parliez, Philippe Bilger, d'un trop plein de commémorations du président Emmanuel Macron.
Des panthéonisations à outrance, alors tout n'est pas discutable, hein, bien sûr, mais là, c'est un événement sur lequel tous les Français, à peu près, s'accordent.
Eh bien, dans un instant, on va continuer à parler des JO, hein, justement. On en a déjà parlé depuis le début de cette émission. La torche olympique va arriver ce mercredi à Marseille. Elle va parcourir 12 000 kilomètres sur tout le territoire national dans l'Hexagone en Outre-mer. Ce qui nous amène à notre question du jour, hein, relais de la flamme. La France organise les JO 2024. Est-ce que c'est une fierté pour vous?
Que disent nos auditeurs?
Eh bien, non.
À combien?
95%.
Oui, effectivement. Très bien. Allez. Parlons vrai. Attendez-vous avec impatience le défilé des 206 délégations du monde entier sur la scène. Espérez-vous une pluie de médailles pour nos athlètes tricolores? Êtes-vous fiers en tant que Français d'accueillir cet événement universel? C'est la question que nous vous posons. Et on va essayer de faire évoluer le pourcentage.
Le débat, voilà.
Le pourcentage.
0826 300 300, vous pouvez voter sur Twitter aussi. Alors il y a quand même un de nos auditeurs qui dit l'esprit olympique n'est plus là, maintenant ce n'est que business, corruption, conflit d'intérêts, etc. Voilà, il y a quand même cette vision là. Après il y en a qui disent qu'ils sont très fiers, hein, aussi. On a 2-3 commentaires comme ça. Faut quand même pas oublier, chers auditeurs, que notre pays rayonne à l'international grâce à ces JO.
Ah oui, c'est bien. Et puis bon, il y a eu des époques, par exemple les JO de 1936 qui étaient ceux d'Hitler à Berlin. Franchement, on peut pas dire que l'esprit olympique était respecté. Mmh. Et puis après, il y en a eu où ça a bien marché, puis d'autres un peu moins. Voilà. Moi, je suis partisan de dire quand même qu'on est bien dans l'esprit olympique côté français.
Allez, un tout petit tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, on est bien dans l'esprit olympique?
Oui, alors j'essaierai de distinguer mon absence d'intérêt, je dirais, pour les Jeux Olympiques et en même temps la fierté que j'éprouve pour la France. Ça me semble compatible.
Bon, Olivier D'Artigol.
Ce sera donc très intéressant de suivre Philippe Bilger dans les tout prochains jours et semaines pour voir s'il y aura un basculement notable.
Ah, comme nos auditeurs, peut-être.
Oui, il est un peu. C'est intéressant.
Madi Seydi.
Alors moi, incontestablement fier, moi la sportive que je suis, j'aurais rêvé porter cette flamme, j'aurais rêvé représenter la France, donc forcément je suis fier.
Marion.
Allez, 0826 300 300, vous réagissez, vous parlez vrai sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre radio et on revient tout de suite avec le coup de projecteur des vraies voix, tout de suite.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour, vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne, alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord, et on vote quand?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Tarascon
95.2.
Sud Radio.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse. Comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix chercher, parler devant, parlant de moi? Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse? Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment?
Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Le coup de projecteur des Vraies Voix, c'est tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix.
La flamme olympique allumée le mardi 16 avril dernier dans le sanctuaire antique d'Olympie en Grèce est accueillie dans la rade de Marseille aujourd'hui. Elle entame un relais de 69 jours à travers la métropole et les Outre-mer, à travers 400 villes avant d'arriver à la cérémonie. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin, Frédéric Brindel? Vous vraiment, vous cherchez à me déconcentrer. Alors je continue, chers auditeurs, avant d'arriver à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 qui est prévue le 26 juillet. Alors selon nos confrères du Figaro, ce voyage de la femme olympique n'est pas sans risque. Le centre de renseignements olympiques identifie 72 scénarios susceptibles de mettre en danger ce parcours, sans oublier le mécontentement, dont les plusieurs centaines de manifestants qui sont en cours de manifestation, donc à Marseille. On vous pose la question sur Twitter, hein, relais de la flamme, la France organise les JO, est-ce que c'est une fierté pour vous?
Parlons vrai, en avez-vous assez de voir toutes les revendications s'amonceler sur le dos de l'organisation des Jeux Olympiques? N'y a-t-il pas un peu au bout du compte une prise d'otage de l'événement par les antis de tous bords? Parlons vrai, attendez-vous avec impatience cette grande et belle fête? Il y a des raisons de s'inquiéter, la preuve, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Les relais de la flamme olympique et paralympique sont principalement susceptibles de faire l'objet d'actions de perturbation émanant d'organisations qui s'en servent comme une tribune pour fédérer les contestations. L'opposition au relais repose sur plusieurs axes de revendication. D'abord, la plus importante sans doute dans ce genre de parcours, comme c'est le cas pour le Tour de France par exemple, la contestation d'environnementalistes d'ultra-gauche, qui est la plus prégnante. Saccage 2024, avec une vidéo qui circule en ce moment, comment éteindre la flamme olympique. Dernière rénovation, avec la volonté d'infiltrer les relayeurs. Les soulèvements de la terre, avec objectif prioritaire de perturber le relais de la flamme. À ce stade, il n'y a pas de velléité mise en évidence par l'ultra-droite, mais ça reste une menace extrêmement importante qu'il nous faut évidemment prendre très au sérieux.
Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la tension est présente, patente. Tour de table?
Tour de table de nos vraies voix, Philippe Bilger.
En fait, j'exagérais un peu tout à l'heure en disant que je n'allais éprouver aucun intérêt pour les Jeux Olympiques. C'était absurde de ma part. En réalité, je voulais dire que compte tenu des multiples incommodités qui existeront à Paris, notamment les difficultés d'accès, eh bien, je préférerais voir les Jeux Olympiques à la télévision, d'ailleurs, mais bien sûr, je ne manquerai pour rien au monde les compétitions où la France peut espérer une médaille d'or, par exemple avec le fabuleux Léon Marchand.
En natation.
Même si je manquais d'intérêt pour les JO, votre question est très pertinente. On ne peut qu'être fier tout de même du fait que les Jeux Olympiques se tiennent en France. Je ne vois pas qui peut dire
eh bien,
non,
nos auditeurs,
je préférais qu'il
nos auditeurs
a...
à 95%, ils ne sont
alors
pas fiers,
là,
sachez-le. Voilà.
Par définition, ouais. Les auditeurs de Sud Radio sont lucides ouais. Et brillants, mais là,
ils aiment contredire, ils aiment contredire.
On est naturellement fiers que ça passe.
Et ce n'est qu'une consultation, évidemment. Et bien
si
souvent, on est tenté de répondre quand on est contre, un peu moins quand on est pour. C'est aussi
si
peut-être ça.
Hein. Pas bien.
Alors justement, Olivier Dartigol, la présence aussi de cette flamme olympique, ça doit avoir normalement un impact d'enthousiasme, de mobilisation autour de ces JO. Alors qu'est-ce qui se passe?
Ou pas.
Ou pas.
je débute... Les journées par un message sur Twitter et sur ma page Facebook intitulé « La bonne nouvelle du jour ». C'est pour prendre un peu à contre-pied l'époque que nous vivons. Il m'arrive de la chercher, la bonne nouvelle du jour. Hein. Elle était consacrée aujourd'hui à l'arrivée du Belém à Marseille et ce qui va donc se passer aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Et l'un des lecteurs sur Facebook du Post m'a dit « Monsieur Dartigol, peut-être, mais j'attire votre attention sur le fait que sur les factures d'électricité, rien n'est réglé. » Je prends cet exemple. Et il me disait, donc comme il est restaurateur, et il me disait que on n'en parlait plus, ce qui est vrai, mais qu'il était toujours confronté à de grandes difficultés concernant son opérateur. Donc il y a de nombreux problèmes dans notre pays. Des crises, on est dans une société cocotte minute. Tout ce qui a par exemple fait naître le mouvement des Gilets jaunes, rien n'est réglé en fait et pour de vrai. La question est de savoir si toutes ces difficultés qui s'accumulent, dont certaines donc ne sont absolument pas réglées, est-ce qu'on va pouvoir quand même voir s'ouvrir un moment, quasiment une trêve olympique dans ce climat français pour souffler un peu et profiter de ces Jeux sans bien sûr dire que ça fait oublier tout le reste. Est-ce qu'il y aura donc ce que j'évoquais tout à l'heure, ce basculement? Ça avait fait la même chose pour Londres, où sur les Jeux de Londres, il y avait
2012.
Eu vraiment... le changement d'ambiance avait été quasiment à l'ouverture des Jeux. Puis le pays avait basculé. Nous le verrons, moi, je le souhaite, parce que il y a quand même, c'est une magnifique programmation sportive et événementielle, beaucoup de bénévoles, il y aura 1100 relayeurs de la flamme. Tenir cette flamme pour ces personnes-là, moi j'ai envie de connaître ce qu'ils ont fait, ça va traverser 200 villes. Moi je suis très bon public, mais je peux comprendre aujourd'hui qu'on ne le soit pas tout autant.
Madi Seydi.
Alors moi j'ai vraiment envie que ces Jeux Olympiques soient vraiment un moment de liesse populaire, de grande fête nationale, mais il y a aussi la réalité qui malheureusement nous rattrape, il y a quand même des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de transport, beaucoup de gens se plaignent en termes d'accessibilité, le prix des places, sans compter tous les problèmes quotidiens qu'ont les Français. J'aimerais que ça soit vraiment que après l'ouverture que tout le monde soit tellement heureux et que on oublie tout ça et qu'on vive ces Jeux Olympiques comme la grande fête que ce doit être. Mais je dois avouer que j'ai un doute en regardant le sondage, mais pas que, mais même autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent on sent que Paris ça va être vraiment le bordel, excusez-moi du terme. On va pas être là, on va partir, et ça, c'est dommage.
Bon, alors, réaction au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous, les auditeurs, êtes-vous fiers ou pas d'avoir ces Jeux Olympiques? Réaction depuis le Perreux-sur-Marne. Luc, bonsoir, Luc.
Bonsoir.
Bonsoir, Judith, bonsoir, Frédéric, et bonsoir à vos invités. Merci de m'inviter sur vos ondes.
Avec alors, plaisir. Plutôt fier ou pas, Luc?
Alors, je sens que je vais vous décevoir. vous m'envoyez fort Marie, car en ce jour de liesse nationale, je vais endosser un rôle que, par perversité, j'aime bien, c'est le rôle de fâcheux.
Vous êtes un Gaulois réfractaire, vous aussi, hein, Luc.
Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'être fier ou de ne pas l'être, hein, s'agissant des Jeux Olympiques, dans la mesure où on ne devait pas être nombreux, si je me rappelle bien, à y prétendre. Par contre, s'il y a une chose dont je suis mortifié, c'est de voir disparaître la liberté de se réjouir, avec l'insouciance qui caractérisait jusqu'à présent le peuple français, de nous être enlevés à jamais par l'insouciance de celle-ci grandement coupable de nos dirigeants depuis tant d'années. Cet événement, comme tant d'autres, a priori festifs, est devenu un véritable challenge sécuritaire avec de potentielles conséquences importantes sur le plan international en cas d'échec. Haro sur la flamme, annoncé par des gauchistes de tout poil, écolo tagueur de toile de maître ou peinturlureur de façade. Sans compter les gauchos pro-palestiniens, dont on ne saisit pas bien la pertinence de la présence. Alors tout au long de ce périple à travers la France, des dizaines de milliers de policiers, d'agents titulaires ou bénévoles, des milliers de bateaux inspectés, des hélicoptères, des drones et peut-être même des sous-marins, des coûts colossaux qui s'ajouteront au dépassement de budgets abyssal déjà comptabilisés. En fait, hormis la police et l'armée, pris à juste titre, qui font ma fierté, ce sont les centaines de toutous policiers mis à contribution et qui ne s'abaissent pas vilement à réclamer une augmentation de croquettes sous peine de grève et feront sans barguigner face à l'accroissement de travail non rémunéré.
Merci Luc.
C'est beau Luc.
C'est alors, beau, c'est bien.
Je vais vous faire juste...
Si vous me laissez encore 10 secondes...
Ah bah oui, secondes, oui, bien sûr. Ah oui, bah oui.
Quelque chose qui me tient à cœur. Je reconnais une certaine cohérence à la réalité de la cité phocéenne dans le choix du chanteur qui accueillera la Sainte Flamme, chanteur emprisonné plusieurs années pour trafic de drogue. La rédemption artistique qui a cours de nos jours efface-t-elle les enfants et les familles qu'il a entraînés dans l'enfer de la drogue? Je ne pense pas.
Bon.
Moi,
bon.
Depuis longtemps que notre président a choisi la décadence tout azimut.
Ah oui.
Ainsi va. Et ira dorénavant la France.
Bon. Okay. Alors, merci pour ce propos nuancé. Ouais. J'espère que Soprano aura un magnifique succès ce soir.
Chanteur
populaire.
Deux petites secondes. Judith, mais il a une voix exceptionnelle. Et bien sûr, s'il est là, c'est que. C'est qu'il a payé. Voilà. Bon. Alors, hormis les 10 dernières secondes, Luc, je voulais juste vous dire que le convaincu des Jeux Olympiques avait entendu vos propos et que ça m'avait aussi touché. Hormis les 10 dernières secondes. Mais ça, c'est chacun qui dit ce qu'il veut. On parle vrai.
Alors, pour illustrer un peu tout ça, on va écouter Céline Verzelletti, hein, la secrétaire confédérale CGT.
Ah oui, alors là, c'est du côté d'Olivier.
Allez, on écoute.
Il faut qu'il y ait finalement les mêmes primes, quel que soit l'employeur public. Même contrainte, même prime. S'il faut en effet perturber très clairement les Jeux Olympiques, eh bien nous les perturberons. On n'a pas de culpabilité à faire grève pendant les JO si nous n'avons pas gain de cause sur des revendications qui nous semblent d'intérêt général.
Pardon, s'il faut perturber, j'en ai perdu la voix.
Voilà.
Nous perturberons, hein, c'est
mais
ça qu'elle nous dit.
Dans ce que disait Luc tout à l'heure, il l'a dit, c'était magnifique ce qu'il avait écrit, mais il pointait quelque chose qui explique peut-être cette morosité d'avant les Jeux. Ils se sont insérés dans un climat très largement anti-macronien. Il y a eu beaucoup d'événements et on nous a tellement parlé des problèmes qu'ils allaient devoir régler, comme vous l'avez dit, Maddy, que finalement il y a presque une contagion du pessimisme. Et j'espère qu'elle se dissipera lors de l'ouverture.
Bon, après, sur l'extrait que nous a fait écouter Judith sur Céline Verzelletti, on a quand même l'impression, alors j'imagine votre réponse mon cher Olivier d'Artigol, mais que tout le monde y va de sa revendication pour un petit peu profiter pour faire sur le dos de la bête, quoi. Enfin,
Ben oui, il y a un effet d'aubaine.
Bah oui.
Il y a les JO qui approchent et donc des métiers qui ne peuvent être télétravaillés et qui sont essentiels à la réussite des Jeux, mais à notre vie quotidienne. Les salariés en profitent pour ou rappeler un certain nombre de revendications ou demander des conditions de travail renforcées parce qu'ils vont devoir faire appel à une surcharge de travail pendant ces JO. J'ai eu une discussion passionnante avec un conducteur de métro qui dit, mais il faut le dire à l'antenne, on va avoir une surcharge de services à rendre, mais on n'a pas de moyens supplémentaires de recrutement, de rames en plus, et donc il me disait ça ne passera pas. On va être en grande difficulté. Ce sont souvent aussi des revendications pour permettre la réussite des Jeux. On oublie de le signaler.
Alors pour revenir un peu au symbole de cette flamme olympique quand même, Mahdi Saïdi, la flamme olympique c'est quand même un symbole de l'unité, de la paix et de la diversité à l'échelle mondiale. Et alors c'est rare que je donne mon opinion, mais moi je trouve ça quand même dingue qu'on attaque ce symbole, vraiment, et qu'on oublie l'importance en fait de ce que ça porte.
Oui, absolument, et c'est bien dommage, parce qu'effectivement, ces Jeux sont aussi le moment où, comme je disais tout à l'heure, de communion nationale, parce qu'il n'y a pas que les commémorations qui le font, il y a aussi de grands événements comme les JO, et là, c'était une vraie opportunité, mais malheureusement, ces JO aussi sont aussi une opportunité pour les politiques, pour les syndicalistes, qui là vont tourner à 100 à l'heure, pour pouvoir remettre sur la table des revendications qui parfois sont légitimes, sans doute, il n'y a pas de souci, mais là, c'est l'occasion de les remettre sur la table. Et ça, c'est dommage, parce qu'on passe à côté de quelque chose.
Vous avez parfaitement raison, moi ça m'a semblé fou quand j'ai lu le dispositif de sécurité autour de la flamme, avec différents périmètres.
Parce qu'il y a des gens qui veulent l'éteindre, vraiment.
Abdoulaye Kanté nous l'a expliqué quoi, d'ailleurs hier, il est responsable, il était vraie voix, il nous a expliqué.
Avec des points de sécurité, puisque ça va aller à 4 km/h. Donc ça pose un très grand nombre de problèmes. Et bien évidemment, il ne faudrait en aucun cas que cette flamme ne puisse plus faire son cheminement et être éteinte. Ce serait une catastrophe pour l'image même du pays.
Allez, on écoute encore un extrait plutôt contre, Christian Groslieu, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Ça fait 7 ans que la France est informée qu'elle va bénéficier des Jeux Olympiques. Et à quelques mois à peine, pour ne pas dire quelques semaines de ces Jeux, nous n'avons toujours pas réglé des situations et en particulier l'investissement des agents publics pour réussir cet événement. Évidemment, d'une population à une autre, vous n'avez pas le même investissement. Les forces de sécurité, police, douane, etc. ont un investissement beaucoup plus fort, évidemment, que d'autres services, mais il y a des services importants dans la fonction publique qui vont être concernés, en particulier la voirie, l'entretien des routes, le nettoyage des routes, le nettoyage des trottoirs, le ramassage des poubelles, l'impact que ça va avoir aussi sur les services d'urgence hospitaliers avec 12 à 15 millions de visiteurs en plus. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire où ça peut démarrer, quand ça peut démarrer. Ce préavis, il sert justement à ce que si ça se passe mal, les agents puissent s'arrêter de travailler pour se protéger et quelque part protéger leur sécurité et leurs conditions de travail.
Christian Groslieu, le secrétaire général de Force Ouvrière sur Sud Radio.
Ouais, vous en pensez quoi, Philippe Bilger, finalement ? Parce que, bon, on comprend bien qu'il y a une surcharge de travail, qu'il y a des intérêts, mais il y a aussi l'image qu'on donne et beaucoup d'étrangers le disent, oh là là, on va en France, est-ce qu'il va y avoir des avions, est-ce qu'il va y avoir des trains ? C'est ça aussi.
On avait invité une syndicaliste il y a quelques semaines et je lui avais demandé, mais est-ce que le combat syndical est-il forcément indifférent à l'image de la France lorsque des Jeux... J'avais compris, et pourtant ce syndicaliste était quelqu'un de tout à fait pertinent dans d'autres domaines. Il a répondu, pour moi le combat syndical est prioritaire. Mais il répondait aussi, comme Olivier l'a fait là, notre lutte pour l'amélioration de notre condition, elle est aussi destinée à nous permettre de mieux assurer ce que les Jeux Olympiques exigent. Et je ne vois pas de raison, à partir du moment où j'admets la validité de l'argumentation pour les forces de sécurité, pourquoi je la refuserais en quelque sorte systématiquement pour d'autres.
Olivier d'Artigal.
Oui, exact. Alors, on ne peut pas empêcher un syndicaliste de faire son travail de syndicaliste. Bon, après, je souhaite réellement qu'un certain nombre de revendications puissent être sérieusement examinées, regardées de près. C'est aussi l'art de la négociation qu'on a un peu perdu dans les dernières années, malheureusement. J'espère que les choses seront réglées avant la cérémonie d'ouverture.
Oui, Mahdi, dans votre spécialité, il y a la communication de crise. Est-ce que finalement le gouvernement communique bien autour de ces possibles crises sur les Jeux Olympiques ?
Eh ben, en tout cas, là, depuis quelques jours, on les entend plus. Et je ne sais pas si d'ailleurs c'est une bonne idée de continuer à parler des problèmes de sécurité, parce que quelque part, il faut aussi peur aux gens.
Oui.
Il faut aussi peur aux gens. Donc évidemment, c'est important de créer un lien avec les populations. pour les rassurer, mais si on communique trop sur les problèmes d'insécurité,
on les crée aussi,
donc on fait peur aussi. Donc la communication aussi a sa limite, en tout cas il faut qu'elle soit mesurée pour qu'elle soit efficace.
Bon. Eh bien, Monsieur Macron dit lui que les Gaulois réfractaires doivent changer d'avis, puisque accueillir le monde est un élément de fierté qui change le regard des Français sur eux-mêmes. Voilà, ouais, ça sera la conclusion,
non ? Moi, en tout cas, je suis fier qu'on ait les Jeux Olympiques, je vous assure, c'est une fête fabuleuse. Ouais. Moi j'ai eu la joie d'y travailler sur 5, vous voyez des gens du monde entier passer, vous croisez des gens du Botswana, du Guyana, bah oui, du Kazakhstan, c'est magnifique.
J'ai la première fois choisi un autre pays.
Mais moi, je le prononce façon Est.
D'accord. Voilà. Eh bien, merci les vraies voix. Je rappelle que ce soir, vous étiez, chers auditeurs, avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Olivier Dartigol, chroniqueur politique. Madi Seidi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Merci à tous les trois d'être venus par ici.
Merci à vous tous.
À
les vraies voix Sud Radio. Sud Radio Saint-Jean-de-Luz.
103.9.
Sud Radio.